française, français, bonitos, bonitos. Hélène, directrice du département marketing, et Mathieu, stagiaire au sein du service qualité de Jogging Bonito, ont décidé lors d'un point organisé à la machine à café de vous proposer cet épisode en deux parties. Pour toute réclamation, contactez Romuald au service SAV sur Twitter avec le hashtag Jogging Bonito. Bonne écoute.
Bonjour à tous, bienvenue dans votre nouvel épisode de Jogging Bonito, votre podcast sur la course à pied, qui espère vous amener à réfléchir à des sujets de société au travers du prisme de notre sport préféré. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui. Le dernier épisode datant d'avril a été une superbe expérience de partage et d'échange avec vous, puisqu'il s'agissait d'un épisode enregistré en live à Paris, avec une dizaine d'entre vous. Sachez que ça a été une bouffée de motivation énorme pour nous. Nous sommes conscients qu'il est parfois difficile de retransmettre un épisode bien ficelé, un épisode enregistré en live. Nous avons fait notre mieux pour que tous nos bonitos en profitent et on espère qu'il vous aura plu autant qu'à nous. Si vous ne l'avez pas écouté, filez donc le faire et encore mieux si ça vous dit de voir nos têtes. Une version vidéo est en ligne sur YouTube de Jogging Bonito. Bien, il est maintenant temps de passer à l'épisode du jour. Alors même si des écrans nous séparent aujourd'hui, je suis ravie de retrouver mes deux compères, Émir et David.
Salut
à tous. Content d'être de retour après un mois de repos.
Ouais.
Un mois qui nous a fallu pour récupérer du live de folie.
C'est ça.
C'était une super expérience. Franchement, on a rencontré du Skyrunners parisien. C'était top. Ouais.
C'était mortel.
On les salue d'ailleurs.
Que des gens extrêmement performants de plus, qui plus est.
Ben,
incroyable.
Des bonitos, quoi.
On a comparé nos segments Strava. C'était une grande soirée.
On a comparé la longueur de nos segments Strava, pour être plus exact. C'était quelque chose.
Oh là là. Bon, alors quoi de neuf depuis avril? Des courses? Rien à déclarer? Ouais, Émir, tu nous as tapé un record quand même sur marathon quand même?
Bah, c'est vrai que c'était après l'enregistrement, ça. Ouais, effectivement, c'était à London, fin avril, toute fin avril. J'ai fait mon RP de quelques secondes, hein, je crois. Je suis passé sous les 3,14 de
punaise.
Très peu.
Ouais.
Et voilà, du coup, je crois que j'ai 15 secondes. J'ai dû faire 15 secondes de mieux que mon précédent score. Mais je ne suis pas certain que j'étais dans une meilleure condition que lorsque j'ai fait mon record, dans le sens où le record, il est fait sur le marathon de Cernay-la-Ville, aussi nommé le premier marathon de France, avec un dénivelé qui est largement supérieur à celui de Londres. Du coup, je pense que j'étais en moins bonne forme, mais que pourtant, c'est un RP quand même. Mais bon, voilà, c'était la petite histoire.
Bravo à toi. Bon, tu sais que je prends ça à mon compte, hein, parce que c'est grâce à mon entraînement sur le marathon de Paris, juste avant que tu arrives à ce RP, moi, je pense.
C'est évident que c'était grâce
c'est
à ça,
évident,
parce
hein.
que non, c'est sûr. C'est sûr et certain.
Voilà. Ouais, toi, David?
Ben, moi, qu'est-ce que j'ai fait depuis un mois et demi? Je sais pas, moi, des drifts sur le parking du supermarché. Je sais pas. Rien de terrible. Hein. Si.
C'est au mois de mai. C'est des trucs, excuse-moi, mais récemment, j'ai vu des choses sur Twitter.
Bon, en tout cas, je sais pas, tu penses à Steinwerk?
Voilà, je pense exactement à Steinwerk, la ville que personne ne sait prononcer.
Voilà, Steinwerk. Charmante petite ville du Nord qui organise tous les ans un 100 km depuis maintenant plus de 40 ans. Et voilà, donc ben c'était mon sixième 100 km, je crois. Et donc mon troisième abandon. et oui.
Bon,
j'étais en bonne
t'as
forme.
T'as bien fait, t'as été intelligent.
Ouais, j'étais en bonne forme et puis le pied a décidé de me pourrir la vie. Alors j'ai préféré me ranger sur le côté, comme on dit. Et puis ça tombait bien. De toute façon, je savais que ça n'irait peut-être pas très loin. Donc il va falloir trouver des solutions. Alors si vous êtes kiné, ostéo, marabout ou que sais-je, n'hésitez pas à me contacter.
Voilà. Et venez aider David.
On va essayer de trouver une solution. En ce moment, j'ai le tendon droit qui est dans un état tellement bizarroïde qu'on ne sait plus dire si c'est si j'ai une jambe droite ou une jambe gauche. C'est un peu le bazar.
C'est vrai qu'on a vu des choses sur Twitter.
Yeah.
C'était un peu étonnant. C'est vrai que tu avais l'air d'avoir des jambes qui pouvaient être ambidextres.
C'est ça, tout à fait.
Bon, pas très bien. Donc,
et toi, comment vas-tu?
Ah, moi, ça va. Écoute, tu vois, je suis repartie dans ma campagne, dans mes contrées californiennes. Et voilà, non, rien à déclarer. Si, quand même, je recours un peu mieux quand même qu'en avril, où j'avais toujours ma patte folle. Ça va mieux.
Ah, ravi, ça va mieux, moins de douleur, tout va bien.
Ouais, je le sens que très rarement maintenant. Toujours là, mais moins souvent. Donc voilà.
Et j'ai une petite chose à ajouter, une petite actu quand même. Eh bien, pour ce qui est de l'équipe, en avril, on s'est vus tous les trois. Mm-hmm. Ça, personne l'aura manqué. Ensuite, en avril, si je ne dis pas de bêtises, David, on s'est vus tous les deux. Et
oui.
C'était en avril, hein, pour les Flandres.
C'était en avril, ouais.
C'était en avril. Et qu'est-ce qui se passe en juin? Eh bien, avec mardi, on se voit tous les deux. Et c'est un truc de fou, quand même. Hein.
Et c'est sur incroyable. Mes terres, c'est ça, le truc
sur,
de fou.
Aux États-Unis. Eh bien, c'est de la folie. Jogging Bonito, hein, ça devient... Voilà. Les gens se voient physiquement, les gens de cette émission.
Voilà, on a lancé le truc et c'est parti, là. Donc, juillet, qu'est-ce qu'on va faire en juillet, là?
Je sais pas, mais forcément, il y aura une grosse teuf sur un rooftop à Vegas ou un truc comme ça. Quoi.
Ah ouais.
Ce qu'il faudrait, c'est que les Bonitos nous invitent aussi à travers le monde.
Ah ouais, donc, ça c'est une bonne idée, ça.
Ouais, c'est ça.
Nous, on vient, les gars.
C'est par
Utip
et des Tipeee. Ouais, voilà, tout à fait.
Notre Tipeee imaginaire.
Contribuer.
Voilà.
C'est ça.
Bon. Il est à combien actuellement le Tipeee, Margie?
Un million.
Un million
Par mois, ouais. c'est récurrent.
C'est ça. C'est le problème, c'est que ça ne paye que 2 salaires sur 3.
Et c'est ça. Donc du coup, les gars, il faut mettre un peu plus, quoi.
Ah, voilà.
C'est comment... Regardez le pauvre David, c'est lui qui est pas payé, hein, vous vous doutez bien.
C'est ça.
C'est lui qui crie le moins fort, qui récupère le moins, effectivement.
C'est ça, voilà.
Le plus sage d'entre nous.
Donc bon, les bonitons comptent sur vous, quoi.
Bah ouais, hein. Ah, la vie, c'est dur, hein.
Allez, programme du jour, c'est parti. Première chronique, quand notre perception fait de nous des petits juges impitoyables. Et on finira avec vivez heureux, vivez caché. Alors, commençons par les choses qui fâchent. Un exemple de choses qui fâchent. Quand je vous dis Clémence Calvin, c'est quoi la première chose qui vous vient à l'esprit?
Allez-y.
La drogue, t'as dit?
J'ai dit la drogue.
Ouais, dopage, c'est ça, on est d'accord. Et si on s'en tient à l'opinion majoritaire, bah, elle est coupable. Hein. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu, on l'a lu sur Twitter, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu, parce que en fait, on ne sait pas trop en fait, hein, pourquoi. Préjugés, idées reçues.
Elle est allée s'entraîner au Maroc, quelque part, dans un endroit un peu
bizarre,
secret, ouais, où des athlètes pas forcément hyper fréquentables ont l'habitude d'aller s'entraîner. Enfin, bon. C'est très douteux tout ça, très nébuleux.
C'est ça. Et d'un jour, comme on juge aussi vite qu'on scrolle sur les photos d'Instagram, c'est facile d'avoir des préjugés et des idées bien reçues. Mais si on se réfléchissait un petit peu, hein, alors on va écouter David qui va nous en parler.
Ouais. Et ben j'en profite pour dire que j'apprécie particulièrement le verbe scroller. J'ai toujours adoré ce verbe. Ouais.
Scroller.
Parce que donc pour cette chronique, je ne vais pas vous proposer de passer les portes de la perception, donc arrêtez-moi notamment si vers la fin je me laisse aller à parler molécules, pharmacologie, voire chromosomes. Arrêtez-moi parce que ça voudra dire que tel Antonin Artaud, j'aurais abusé de psychotropes lors d'un périple peut-être imaginaire chez les Tarahumara et parce que j'ai un bac littéraire qui m'a été imposé à cause de ma nullité intersidérale dans toute discipline à caractère scientifique. Donc je traduis, arrêtez-moi ou insultez-moi car nous ne sommes pas en direct. Si en votre qualité d'expert vous considérez que je dis n'importe quoi, sachez tout de même que cette chronique a été validée par Rémi et NFKB, donc vous savez à qui adresser vos doléances. Ceci n'est absolument pas vrai, mais c'est pas grave. Donc pourquoi cette introduction un peu poussive ? Alors, parce que je tiens à vous prévenir que je ne ferai pas une analyse fouillée du sujet qui nous intéresse ici. Je vais vous faire seulement part de ma perception. Toujours la perception. S'il vous plaît, ne vous enivrez pas avant de m'avoir écouté. Début avril, il s'est passé quelque chose qui a fait du boucan chez nos congénères, les athlétos. Donc vous voyez de quoi je parle, hein. Mardi on a parlé un petit peu en introduction. Ouais, c'était le début d'une affaire rocambolesque autour de Clémence Calvin, sans doute l'une des athlètes françaises les plus balèzes de ces dernières années. Pour vous contextualiser le bazar très rapidement, elle éveille des soupçons en mars en refusant de faire valider le record de France du 5 km qu'elle venait de taper à l'occasion du semi-marathon de Paris. Validation sous réserve d'un contrôle antidopage qui n'aura donc pas lieu. Non mais c'est bon, je m'en fous, sur ma vie je vais battre encore le record bientôt. Quelques semaines plus tard, alors qu'elle est au Maroc pour finir de préparer le marathon de Paris, pour lequel elle nourrit de grandes ambitions, on apprend qu'elle aurait refusé un contrôle inopiné de la FLD, l'agence française de lutte contre le dopage. Elle se défend en conférence de presse en accusant les contrôleurs de s'être déguisés en policiers et de l'avoir agressée. Donc l'affaire vire à la dramaturgie, hein. En mode actor studio, selon les sceptiques. Suspendue à titre provisoire dans un premier temps, elle fera sauter la sanction avec un recours auprès du Conseil d'État et elle ira finalement kicker le record le record de France du marathon qui était détenu depuis 2010 par Christelle Denet. Record qui demande à être homologué, ça va être une longue bataille juridique, on verra comment ça finira. Je vous passe tous les détails, les médias ont largement couvert l'affaire et le tribunal Twitter n'a pas attendu longtemps pour juger, condamner et s'il avait pu, il aurait torturé. Stade 2 s'est déplacé sur les lieux du contrôle pour une enquête sensationnelle avec des visages floutés, des voix inquiétantes. Il manquait juste la musique des Dents de la Mer. Enquête troublante et frustrante car elle se termine sur les images d'un véhicule mystérieux qui aurait espionné l'équipe de journalistes sans que l'on sache s'ils ont essayé d'enquêter sur son propriétaire. Tout cela contribuant à influencer notre perception en défaveur de Clémence Calvin, bien entendu. Donc c'est nébuleux, voyez par vous-même. À la limite, la charge la plus lourde pour l'athlète, c'est la prise de position sur Facebook du journaliste et commentateur de France Télévisions, Patrick Montel. Hein, le Patrick Montel, le Thierry Roland pour l'athlétisme. Patrick Montel, c'est l'une des cibles préférées des réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'il a un côté très énervant avec ses approximations, ses connivences ou une manie d'annoncer à l'avance ce qui va se passer, alors qu'au final, il se trompe. On se souvient notamment du dernier 400 mètres au relais 4 x 400 mètres de Flora Gay au championnat d'Europe d'athlétisme à Zurich en 2014. Si vous voulez, quand Montel vous défend, c'est déjà considéré comme un élément à charge. Alors, qu'est-ce qu'il a commis, monsieur Montel ? Eh bien, il a essayé de comprendre. Et à l'heure où une opinion ne vaut que par son niveau de manichéisme et d'hystérie, inutile de vous dire qu'il n'a pas tardé à entendre le cri des vierges effarouchées. Il a essayé de comprendre, et dans l'esprit de la foule, ça veut dire défendre, ça veut dire excuser et quelque part cautionner le dopage. Que sert-on à la foule assoiffée de sang en 2019 ? On lui sert une bonne grosse indignation des familles. Le décathlonien Kevin Mayer. Il s'est dévoué à lui, hein, en caricaturant sans honte les propos de Montel, faisant même abstraction de la mise au point du journaliste quelques heures plus tard, qui était destiné donc à apaiser les querelles et à démentir poliment les mauvaises interprétations de ses propos, qui pourtant, moi, me semblent sans trop d'ambiguïté, si on se donne un peu la peine d'être de bonne foi. Je rappelle que Mayer l'a accusé de généraliser, de dire que tous les athlètes sont dopés, et par conséquent de jeter l'opprobre sur l'athlète. Reprenons plus en détail ce qu'il a dit. Il affirme que le dopage est inhérent au sport professionnel. Waouh, le crime de lèse-majesté. Il explique que la pression des records à battre chaque rendez-vous, l'intérêt collectif, peut inciter les athlètes à se doper. Il parle d'un système qui conduit au dopage, pointe une pression tous azimuts et donc suggère une possible responsabilité collective, alors qu'en cas de faute, c'est l'athlète seul qui en paye les conséquences. Il dénonce le lynchage public, nous renvoie à nos propres erreurs, qui n'en fait pas, qui n'a jamais triché même. Donc pour contrer les aficionados de la guillotine ou de la suspension à vie. Les athlètes sont parfois jeunes, mal entourés, chacun a le droit à une seconde chance, il y a des règlements avec des barèmes, celui qui triche est puni, pas la peine d'en rajouter. Dans le cas de Clémence Calvin, elle risque, je crois, 4 ans de suspension. C'est amplement suffisant, je pense. Et en tout cas, c'est ce que pense aussi notre ami Patrick Montel. Il prend aussi pour exemple des athlètes qui, après s'être fait toper, sont passés à autre chose et ont montré qu'ils n'étaient pas juste des salauds. Sans équivoque, il indique qu'il est contre toute forme de triche, contre le dopage, pour les contrôles. Il appelle aussi à la réflexion, à prendre de la hauteur, à ne pas hurler avec les loups. Bon, il admet apprécier Clémence Calvin, mais il aime tous les athlètes et refuse d'avoir des doutes sur leur intégrité jusqu'à preuve du contraire. Il leur fait confiance a priori. En outre, comme cela doit être valable pour tous, il tient au respect de la présomption d'innocence. Je vais vous dire ce que j'en pense. Je partage en grande partie le fond de la pensée de Patrick Montel. Kevin Mayer ou les autres qui lui ont emboîté le pas ne font preuve d'aucun courage en sautant sur l'occasion de taper sur une personnalité fréquemment sujette au bashing. C'est juste de la pure et crasse démago. J'invite les auditeurs à voir cette vidéo sur le Facebook de Patrick Montel. D'ailleurs, on la mettra dans les notes de l'émission, en description de l'épisode, et donc à éviter d'avoir une réaction épidermique. Il ne veut pas participer au lynchage. Quel mal. Heureusement, on peut compter sur France Télévisions, l'employeur de Montel, pour mettre un peu de raison. Eh ben non, en fait. La vindicte populaire est passée, et le journaliste a été écarté de la chaîne, qui n'en demandait pas tant, d'après ce qu'il se dit, et après tout, il a peut-être fait son temps. Il a 66 ans, je crois.
Ouais.
En tout cas, aux yeux du public, tous les éléments à disposition accablent Clémence Calvin. Or, ces éléments ne reposent que sur des intuitions, ce qui est un peu problématique. Renversons un peu les choses. Si des proches de Calvin se mettent à espionner les personnes qui, de leur point de vue, cherchent coûte que coûte à prouver, évidemment à tort, qu'elle s'est dopée, quand ils essayent de la retrouver, de retrouver son parcours au Maroc, après son départ, est-ce qu'on ne peut pas imaginer que c'est juste que c'est pour la protéger, en fait? Ne peut-on pas imaginer que les contrôleurs de la FLD ont eu une attitude de cow-boy qui aurait pu effrayer ou indisposer l'athlète? D'ailleurs, un des témoins du reportage de France 2, de Stade 2, affirme qu'un des contrôleurs s'est présenté comme étant un policier. Que sait-on des réelles conditions qui ont entouré ce contrôle antidopage? Il est plus facile de lyncher en 140 ou 280 caractères plutôt que de prendre le temps de se poser des questions, d'avoir des preuves tangibles ou d'attendre que la vraie justice passe. S'il avait Twitter, Jean-Yves du Café des Sports cher à Émir écrirait tout simplement « De toute façon, Clémence Calvin, elle est pas clean et il faut la suspendre à vie, et bien même au-delà. »
Tu le fais pas aussi bien qu'Émir, mais...
Ah non, c'est vrai. Tu veux la faire, Émir?
Oui.
Oui.
Eh, de toute façon, Clémence Calvin est pas clean.
C'est ça.
Ça va à peu près?
Ça va à peu près.
Hein, quand même.
Utilisons Twitter et ça fera des économies au ministère de la Justice. Je suis lassé des réactions un peu primaires des gens qui cherchent de l'attention en embarquant toute une meute. Et je suis servi, il faut le dire, parce que... À quelques jours près, on a appris que la sud-africaine Caster Semenya avait été déboutée de son appel auprès du TAS, donc Tribunal Arbitral du Sport, suite à la décision de la Fédération Internationale d'Athlètes d'obliger les athlètes hyper-androgènes à prendre des traitements pour faire baisser leur taux de testostérone pour maintenir leur droit à participer aux épreuves féminines. Pour Jean-Yves du Café des Sports, la question est tranchée depuis longtemps. Semenya, ben c'est un mec. Non, je la fais pas bien. Hein.
Semenya, c'est un mec, point.
Oh.
Faut le suspendre à vie, et bien même au-delà.
Ah, t'as de la compétition.
J'ai essayé à ma manière.
Très très bien. C'est génial. Franchement, j'ai beaucoup apprécié.
Je me suis dit que imiter Mir, c'est pas possible. J'ai essayé autre chose. Et non, Jean-Yves. Non, 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 Jean-Yves. Depuis quelque temps, on ose parler des personnes intersexes. Tu sais, ce sont ces personnes qui sont nées avec des caractères sexuels qui ne correspondent pas à la définition binaire homme-femme XX et XY. Et oui, Jean-Yves, Caster Semenya peut être une femme, surtout si elle se considère comme telle, mais avoir des caractéristiques que tu identifies comme propres à la masculinité. Et pour être un peu trivial, Jean-Yves, il est possible que Caster Semenya ait plus de pecs que toi malgré toutes les heures que tu passes à la salle. Mais pour autant, naturellement, elle ne soit pas pourvue exactement entre les jambes des mêmes attributs que toi, ceux qui, comme chacun le sait, font ta grande fierté. Comme elle peut très bien être née avec une paire de chromosomes XX tout en ayant des testicules. J'ai pas tous les détails, je l'admets. Hein. Toujours est-il que Semenya est reconnue comme une femme intersexuée. Sur le volet juridique de l'affaire qui concerne la championne de 800 mètres, il faut préciser que le tribunal fédéral suisse a ordonné la suspension de cette obligation de suivre un traitement pour baisser son taux de testostérone et que ce n'est pas terminé car il y aura un appel de la part de la Fédération internationale d'athlètes. C'est assez classe. Si scientifiquement on démontre qu'il y a de la complexité à définir les individus au-delà de nos habitudes, X, Y ou XX, l'individu random est encore loin de l'intégrer et a besoin de simplifier. L'attitude de la Fédération internationale n'arrange rien. Ses dirigeants connaissent les complexités et elle s'obstine à fixer des standards en matière de taux de testostérone, veut imposer aux personnes intersexuées de le faire baisser médicalement alors qu'elles le produisent naturellement. J'y vois une dérive discriminatoire, franchement. On est en droit de se demander si cette position n'est pas sexiste. Dans la culture populaire, l'image d'une femme forte, athlétique, performante est vue comme quelque chose de malsain, laid et donc douteux. Bref, j'arrête là, on peut quand même dire que l'être humain est bourré de préjugés, qu'on n'en est pas détaché, et peut-être on passera à autre chose quand on se posera la question du transhumanisme, de l'être humain robotisé. Est-ce qu'on est prêt à accueillir des êtres génétiquement modifiés ou des cyborgs au départ des courses ? Peut-être que lorsqu'on traitera ces questions, on trouvera qu'on était sacrément cons avec nos dérapages verbaux, nos réactions épidermiques, primaires, et notre sexisme récalcitrant.
Comme tu l'as dit dans ta chronique, David, on a souvent une vision manichéenne des choses. Et pourtant, tout est loin d'être blanc ou noir, on le sait bien. Tu parles des problèmes de dopage et des athlètes intersexes. Et en réalité, tout ça, au lieu de nous amener à juger, ça devrait nous amener à nous interroger plutôt, comme tu le dis dans ta conclusion. Et alors, pour commencer, j'aimerais bien qu'on parle d'abord du dopage. Donc, même si on adorerait rester sur notre petit nuage fait d'amour inconditionnel pour ce sport si beau et si pur qu'est la course à pied, ben, il n'y échappe pas non plus. Pourquoi ? Parce qu'il y a compétition, argent en jeu, nature humaine, et bam, le dopage est là. Donc la première question, c'est, la première chose à laquelle j'aimerais qu'on discute, c'est vous pensez que c'est quoi qui fait qu'on en arrive au dopage ? Comme je disais, c'est le système de compétition, que c'est le système qui a de l'argent en jeu ?
C'est vrai que déjà quand on voit qu'on fixe des objectifs de nombre de médailles aux JO, ouais, qu'on met une pression dingue pour l'excellence. On obtient peut-être l'excellence, mais on obtient aussi la malhonnêteté, quoi. Et je pense que c'est ce qu'a voulu exprimer notre ami Montel, qui pointe aussi une pression extérieure, parce que la pression extérieure est énorme. Je parle des coachs, des sponsors. Regardez par exemple l'enjeu qu'il y a derrière le fait de descendre sous les 2 heures au marathon avec avec des partenaires financiers, avec des marques très connues et qui ont intérêt à ça, qui ont un intérêt là-dedans. Politique, j'en parlais avec l'exigence qu'il y a sur le nombre de médailles et puis la récupération que ça peut engendrer derrière, donc un intérêt. On parle souvent du point du PIB qui peut augmenter là, ou je sais pas quoi, quand il y a des victoires importantes en équipe de France, enfin voilà. Donc des pressions médiatiques aussi, parce que il suffit d'écouter certains journalistes ou certains intervenants pour comprendre que quand tu termines huitième à une compétition, hein, tu n'es rien, quoi. Tu n'es rien. Ouais. Voilà. Donc c'est vraiment une pression énorme. Tout le monde a un intérêt à voir des records claqués. Hein. Mm-hmm. Et ben, il est à peu près normal de penser que ça peut contribuer à amener des athlètes à se doper. Et puis cette pression, ben c'est aussi nous qui la mettons quelque part en réclamant des records, quoi. Enfin, je veux dire, on allume sa télé et on regarde la dernière compétition en espérant qu'il y ait le record. Enfin, on est tous complices un peu. Et l'athlète, effectivement, il est pris dans un engrenage.
Ouais, et d'ailleurs, ben, bon, je ne sais pas si nos abonnés ont déjà vu la vidéo de Patrick Montel, mais il explique bien sur Facebook, là. De Patrick Montel, il explique bien, enfin moi je trouve qu'il explique bien ça, certains ne l'ont pas trouvé, mais bon. Tu l'as vu toi, Emir, cette vidéo ou pas?
Non, je ne l'ai pas vu, mais j'en ai beaucoup entendu parler. Enfin, les deux vidéos, il y en a
deux. Ouais. Et il dit une chose, moi, dans la vidéo qui m'a marqué, et c'est vrai, il a dit à un moment donné, on dit qu'une nation est sportive par rapport au nombre de médailles qu'elle récupère aux Jeux Olympiques. Et ça ne devrait pas être... et ça, pour moi, il a raison de dire ça. Donc ça montre bien qu'il y a une pression. C'est pas parce qu'on n'a pas des médailles olympiques qu'on n'est pas sportif, quoi, en fait.
Ouais, et ça, Kevin Mayer, par exemple, se met le doigt dans l'œil aussi, quoi, quand il dit le sport. Je sais plus, j'ai plus la phrase exacte, mais il dit un truc genre le sport, c'est des personnes qui suent 40 heures par semaine et donnent tout. Enfin. Non, le sport, c'est pas ça. Le sport, c'est énormément de choses différentes. Le sport, c'est aussi la santé. La santé, c'est une société qui se tient en forme parce qu'elle s'entretient.
Emir, t'en penses quoi, toi, ça, du système qui fait qu'on en arrive aux dopages, hein?
Comme disait David, je crois que c'est clairement un engrenage. Et je pense que rien qu'en ça, c'est super difficile de blâmer un athlète qui se dope, dans le sens où en fait aucun de nous, il y en a, hein, mais la plupart d'entre nous n'a aucune idée du dilemme que ça représente au moment où il faut se demander si on est quelqu'un qui va sauter le pas du dopage ou pas. On n'a pas du tout les mêmes problématiques que ces personnes, quoi. Je veux dire, t'es à un certain niveau et à un moment donné t'as le choix entre rentrer dans l'histoire ou pas. Et il y a combien de personnes qui vont dire ouais non, rentrer dans l'histoire, je m'en fous, moi je suis naturel. Mais c'est quoi être naturel en fait à un moment donné? Enfin, je veux dire, c'est quoi en fait? C'est pourquoi s'attacher à cette valeur? Pourquoi pour la beauté du sport? De toute façon, la beauté du sport, est-ce qu'elle est dans le naturel forcément ou pas? Enfin, c'est quand même des choses qu'en s'ouvrant l'esprit, on peut se poser comme question. Je pense que c'est des questions qu'on peut se poser. C'est est-ce qu'on va continuer longtemps à être naturel, à être si naturel que ça? On en parlait un tout petit peu de la question du transhumanisme. Aujourd'hui, on trouve que c'est un truc de ouf, peut-être le dopage, et c'est pas dans les mœurs, mais peut-être que demain, la base, c'est qu'il y aura des compétitions avec produit et des compétitions sans produit, et puis personne s'offusquera de ce qu'aujourd'hui on...
Là, il y aura la différence, tu vois. Là, c'est quand même problématique parce que.
C'est parce qu'aujourd'hui, on se l'admet pas.
Il y en a qui sont clean et il y en a qui ne le sont pas.
Bah oui, mais c'est parce qu'aujourd'hui, on ne veut pas s'admettre.
C'est pas juste pour les gens qui. Moi, je trouve que. Enfin, voilà, c'est pas. Le dopage, c'est pas normal quand même, quoi.
Non, c'est pas.
Ça devrait pas l'être. Maintenant, c'est pas normal de blâmer. Enfin, comment dire. Si, les gens doivent être. Ceux qui se dopent doivent être.
Sanctionnés.
Sanctionnés, ouais. Mais il faut pas les blâmer plus que ça. Enfin, on va pas leur taper dessus encore parce que on sait pas ce que nous on aurait fait dans la position là. Ouais, quand tu vois qu'on est capable de gruger pour des petits trucs de rien du tout, quand il y a des énormes enjeux derrière, on sait pas comment nous on réagirait. Hein. C'est facile de dire moi je ne le pourrais jamais. Donc voilà.
Trop facile.
Donc finalement, c'est à la fois le système qui, à mon sens, qui fait que on en arrive au dopage, mais c'est aussi la nature humaine, malheureusement.
Le fait de vouloir, le fait de vouloir gagner, le fait de vouloir aller au stade supérieur. Je pense que ça c'est intégré nettement dans la nature humaine. Ouais, on veut toujours aller aller décrocher ce qui est ensuite, quoi. C'est ça. Et même dans le milieu amateur, même quand il n'y a pas d'enjeu pour certains.
Ouais, c'est ça. C'est,
même quand il n'y a pas d'enjeu financier, il n'y a pas d'enjeu particulier du tout, il y en a qui vont vouloir aller chercher cette sensation de, bah, d'avoir fait mieux que la fois précédente, et ce, à tout prix, en quelque sorte. Donc ouais, je sais pas. J'ai peut-être un discours qui est beaucoup trop, pour certains, et qui va peut-être choquer, qui est beaucoup trop rempli de « je me mets à la place de, des gens qui se dopent », mais je me dis que j'imagine tellement pas, en tout cas pour les athlètes pros, hein, quelles sont leurs contraintes, que les voir se faire taper dessus, ça me, c'est ça qui me choque, moi, en fait. C'est, j'arrive pas à voir ça, quoi. Je me dis... Il y a beaucoup trop de choses qu'on comprend pas, en fait, dans la complexité de la vie de ces gens-là. Donc, je sais pas. Oui. J'arrive pas à les blâmer. Même si, comme tu dis, Margie, c'est injuste et voilà, il faut pas le faire, c'est pas bon pour les autres. Il y a un coin de ma tête qui me dit, ok, c'est injuste, mais d'un autre, on en parlait avec Caster Semenya, c'est injuste aussi alors que c'est naturel. Du coup, on, voilà, bon, ça va un peu plus loin, mais ouais, c'est encore autre chose. C'est encore autre chose. Mais tout ça pour dire,
je pense qu'il faut, il faut comprendre, en fait. Il faut comprendre. Ça veut pas dire qu'on excuse, qu'on valide, qu'on cautionne. Il faut comprendre ce qui peut faire qu'on en arrive là.
La question, c'est pourquoi nous on réagit finalement. Pourquoi les gens comme nous, on va réagir aussi mal, aussi de façon aussi épidermique à ça, quoi.
Finalement. C'est plus vendeur. Hein. C'est des débats
pourquoi
réducteurs.
Pourquoi on s'insurge directement au lieu de se poser la question pourquoi on en arrive là, quoi.
Oui, puis en plus, l'information, l'information, elle n'existe plus, en fait. Maintenant, on est dans le monde de l'entertainment, en fait, dans les médias.
Ouais,
hein. Tu vois, les journalistes ne sont plus journalistes, sont éditorialistes. Ils ont des avis tranchés de partout. Il n'y a plus la place à la nuance. Tu vois, et
c'est
ça,
vrai,
fait
raison,
agiter
ça.
Les masses, bah ouais, ça fait agiter
les
masses.
Même les journalistes, parce que c'est pour tout pareil, quoi, ouais.
Ah ouais, bah ouais, ça va vite, c'est efficace.
Ils font plus le côté, moi, journalistique, je pense, je pense que
oui.
C'est ce que j'aimerais voir, c'est qu'on me dise, voilà les deux côtés, quoi. J'explique ça, je prends
cas, qu'il
pas
une
forcément
analyse,
position.
Quoi.
Exactement, voilà, qu'il y ait une analyse.
Mmh. Ouais, non, mais alors que, tu vois, je pense que les types de débats auxquels on assiste actuellement, c'est d'une certaine manière plus simple, plus audible, tu vois, qu'un débat entre des personnes sociables, respectueuses et cultivées, tu vois. Non, mais
ça
c'est
fait
vrai.
Moins le buzz.
Ça fait moins le buzz, et puis, tu vois, de
ça
façon
marque moins aussi, peut-être.
Ça marque moins, tout à fait. Mm-hmm. Tout à fait. Tu vois, et voilà. Moi, le seul motif d'espoir que je trouve, c'est qu'avec le développement, il paraît qu'il y a de moins en moins de cons.
De moins en moins de quoi ?
De cons.
Ah, tu crois ? On se posait la question avec Emir juste avant de l'enregistrement. On n'est pas sûr. Hein.
Ouais, on était assez moyennement convaincus. Hein.
Non, mais ouais. Bah, aussi, enfin, une chose que je me dis, c'est que c'est facile, encore une fois, de juger et d'oublier que... Bah, comme le disait aussi Patrick Montel dans sa vidéo, c'est qu'on a tous triché un jour. Hein, et on se trouve... Par contre, pour nous, on va se trouver des excuses, mais on n'en trouvera pas aux autres. Et pourquoi ? Bah, c'est peut-être parce qu'on a peur de se mettre face à nos propres contradictions, en fait. Quoi.
Ouais, et c'est malhonnête. Mais c'est humain.
C'est humain, malheureusement, ouais. Et du coup, est-ce que vous pensez à des solutions pour éviter le dopage, pour avoir un sport propre, quoi ? Parce que le problème aussi du dopage, c'est que, à mon avis aussi, ça enlève quand même, ça dénature le sport, quoi.
Ouais, enfin, il y a tellement de complexité dans ce sujet. C'est, en fait, une solution qui pourrait paraître, mais qui est pas réaliste, qui pourrait paraître plus juste, c'est ceux qui ont le droit, les compétitions de personnes qui sont assistées médicalement, on va dire, et les compétitions de personnes qui le sont pas. Sauf que je pense que ça a déjà été réfléchi et ça a pas été admis. Alors pourquoi ? Parce que je pense que le commun des gens se dirait que les personnes assistées médicalement n'ont aucun mérite et ces personnes seraient mal vues. Alors que ces gens-là, qui se dopent, en fait, hein, dans tous les milieux où il y a du dopage, sont des gens qui ont un volume d'entraînement qui est genre 8000 fois supérieur au commun des gens, qui ont un mérite incroyable, sauf que dopage dans la mœurs égale triche, et dopage égale triche, ça veut dire que les gens sont mal vus, et c'est mal vu, et c'est pas vendeur, et c'est pas vendeur, et pas de sponsor, pas d'oseille, on rentre tous chez nous, voilà.
Bah, tu parles de solutions, mais il en existe. Hein. Je veux dire, la lutte contre le dopage, ça existe. Il y a des agences pour ça. Et je pense que malgré tout, le fait qu'il y ait des agences, des organisations qui sont là pour, qui sont aussi là pour sensibiliser, j'ose espérer que ça incite les gens à faire attention, quoi. J'ai assez confiance pour ça. En plus, en France, on peut se targuer d'être assez bien pourvu en matière de lutte contre le dopage. On fait des efforts peut-être plus que certains pays. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres, hein. Mais il faut pas discréditer ça, quoi.
Je trouve ça super intéressant qu'en l'espace de 30 secondes, là, il y ait eu le point de vue légalisation vs le point de vue répression.
Ouais.
C'était super stylé, je trouvais.
C'est ça.
Et pour en terminer sur le dopage, parce que j'aimerais bien qu'on parle aussi du cas de Caster Semenya, là, je voudrais reparler de la vidéo de Patrick Montel, là. Comment ça se fait, en fait, que ça a été si mal pris Il a été maladroit, comment vous l'avez perçu, vous? Enfin, toi, David, plutôt, parce que donc, Emir, tu ne l'as pas vu, la vidéo.
J'en ai entendu parler, mais je préfère laisser David qui...
D'abord, on peut dire qu'il est relativement poli. Hein. Je dirais, si tu as vu les deux vidéos, dans la deuxième, il s'excuse 1000 fois.
Ouais, moi, j'ai vu tout. Ouais. Ouais.
Et après, même sur les réseaux sociaux, il s'excuse 1000 fois. Les autres n'ont pas de pitié. Hein. Ils l'ont découpé en morceaux, ont juste écouté la partie qui les arrangeait, quelque part, hein, aussi pour attirer l'attention. Ouais, il est un peu maladroit, c'est sûr, parce qu'il dit que le dopage, c'est inhérent au sport de haut niveau. Donc ça peut laisser entendre que c'est obligatoire si on n'écoute pas tout ce qu'il a dit.
Ouais,
hein.
C'est si on n'écoute pas, parce que.
Ouais. Mais en même temps, il dit qu'il pense pas que tous les athlètes sont dopés. D'ailleurs, il en cite des sur lesquels il n'aura jamais le moindre doute. Mm-hmm. C'est maladroit aussi parce que son discours, il marque une sorte de résignation, comme je le disais juste avant, en fait. Et je peux comprendre que certains puissent estimer qu'il se fait complice. Tu vois, est-ce qu'il faut se résigner à penser qu'il y aura toujours des athlètes qui se doperont? Parce que si tu fais partie d'une agence.
Tu crois qu'il emmène à ça?
Parce que
moi, personnellement, bon alors, j'ai pas vu la déferlante derrière. C'est toi, David, qui m'a fait passer les deux vidéos. J'ai regardé les deux vidéos. Et pour moi, à partir du moment où tu te concentres et t'écoutes sa vidéo et tu écoutes vraiment ce qu'il dit, il n'y a pas de doute. Le gars, il n'est pas en train de dire qu'il est pour le dopage ou que.
Non.
C'est pas vrai, quoi.
Non, non.
Moi, j'ai tendance à penser que les gens sont tellement... On a tellement l'habitude de zapper, de voir des trucs courts, des contenus courts, qu'on n'écoute pas. La première vidéo, elle fait 15 minutes, je crois.
Il y a deux fois... Il y a 25 minutes à écouter, quoi. Ouais. C'est un peu long, peut-être, ouais. Mais ça n'est pas une excuse.
Moi, ça m'a pas choqué. Je suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit, c'était clair. Ce qu'il disait était clair pour moi.
Moi aussi. Mais je veux dire, quand il dit... là où il y a du sport de haut niveau, du sport professionnel, il y aura toujours la tentation d'un dopage. Ça peut effectivement être un peu démobilisant ou décourageant pour les personnes qui passent beaucoup de temps à lutter contre le dopage.
Mais c'est un peu peut-être, c'est quand même la vérité malheureusement quoi.
On est d'accord. On est d'accord.
Bon alors, j'aimerais qu'on discute un peu du cas de Caster Semenya parce que c'est vraiment intéressant. C'est quelque chose, c'est tout nouveau. C'est l'un des premiers cas dont on parle. Donc c'est une athlète, comme tu l'as expliqué, intersexe. Et là, du coup, je trouve que c'est hyper difficile d'avoir une opinion tranchée Parce que ça touche à beaucoup de choses sociétales, en fait, en réalité. Hein. La première chose, c'est qu'est-ce que c'est qu'une femme et qu'est-ce que c'est qu'un homme, en fait, déjà ? Ouais. Comment on les définit ? Et est-ce qu'on a besoin de faire une distinction ? Alors, distinction nécessaire peut-être dans le sport, et comment on l'a fait cette distinction, en fait ?
Émir, peut-être, du coup.
Mais le sujet, il est tellement vaste, c'est là.
Ouais,
mais tellement vaste, là, on est en train de parler de genrisme, carrément. Enfin, je sais pas si le mot existe, je crois que oui. C'est de pour... Enfin, est-ce que... En fait, on est en train de remettre en question le fait que le fait de l'existence même de homme et femme, quoi, le fait de l'existence de ces deux mots qui sont en fait qui définissent, qui n'y aurait que deux types voilà, c'est ça, qui aurait que deux types d'êtres humains qui seraient basés sur des attributs sexuels ou des chromosomes, en fait, alors que il se dit de plus en plus, et les discours se libèrent de plus en plus sur le fait qu'il y aurait beaucoup plus que ces deux types, hein, et même la science avance aussi sur le sujet. C'est aujourd'hui, je trouve que c'est encore pas facile d'en parler. Honnêtement, je trouve que c'est des sujets, c'est un peu comme la religion et la politique, tu peux pas en parler avec le premier venu, faut vraiment en parler avec tes potes si t'as envie d'aborder le sujet de manière sécure. Mais je crois que dans les années à venir, ça va se libérer de plus en plus à mesure que la science sera...
Tu penses que c'est un sujet tabou un peu, tu penses ?
Bah ouais, parce que pour moi, c'est encore trop ancré.
Ouais.
C'est pourquoi je parlais de religion et politique, c'est parce que c'est les sujets qui triggerent les gens, ça. Genre là, tu vas leur dire homme et femme, c'est obsolète entre guillemets. Les mecs, ils vont te regarder, ils vont te dire non mais n'importe quoi. Tu crois que tu vas tout remettre en question
Je pensais pas quand. Enfin parce que moi je trouve que c'est intéressant, mais je pensais pas que ça pouvait être.
Si, et puis t'as même des problématiques de religion après derrière, c'est que voilà, tu vois, Dieu a créé l'homme, la femme, je dis soi-disant, c'est déjà un peu violent, rien que d'avoir dit soi-disant, je suis un peu violent là, mais en fait on voit ce que je veux dire, quoi. C'est-à-dire, c'est intimement lié à la religion quelque part, et si on se met à remettre en question ça, ça trigger des gens directement, qui sont fondamentalement convaincus que
famille,
c'est comme
un
ça
papa,
et pas autrement,
maman,
quoi. Voilà, c'est
Ouais.
Et je veux dire, je pense, je ne suis pas du tout de formation scientifique, mais je pense que dans les gender studies, tout ça, on estime que la conception, l'idée de sexe serait caduque, quoi, que il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des gens qui se sentent hommes, il y a des gens qui se sentent femmes, et parfois il y a des hommes qui sont plus complexes qu'un homme, et des femmes qui sont plus complexes qu'une femme, quoi. Et cette complexité, elle est très difficile. De toute façon, il suffit de m'écouter pour s'en rendre compte. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? C'est une question...
C'est ça, c'est ça,
ouais,
la question.
C'est une question, c'est très difficile de trancher, tu vois. Je veux dire, en sport, on a des catégories, les hommes et les femmes. Qu'est-ce qu'on fait d'athlètes qui sont reconnus comme hyper androgènes ?
Ouais.
Qu'est-ce qu'on fait ? Enfin, je pense dans le cas de Caster Semenya, elle se sent femme, tu vois ? Et pour moi, c'est crucial. Je dirais, elle se sent femme et elle veut concourir avec les femmes.
Mm-hmm.
À partir du moment où il n'est pas prouvé que c'est une usurpatrice. Comme ça a pu peut-être arriver dans l'histoire du sport, d'hommes qui se font passer pour des femmes, ou inversement, j'en sais rien. Hein. Comment lui refuser ce droit ? Au nom de quoi ?
C'est là tout le problème. Maintenant, étant donné, pour parler du sport, il y a des catégories, comme tu dis, les hommes et les femmes, et il faut bien des critères qui font que tu rentres dans ces catégories. Et c'est pour ça qu'il y a ce souci, quoi. Quels sont les critères ? Comment on décide que... Jusque-là, c'était facile, entre guillemets. Enfin, mais avec ce genre de choses-là, on ne sait plus comment
catégoriser.
Comment classer les gens, quoi.
Sur quel facteur discriminant, en gros.
Sur quelle différence, tu veux dire, quoi.
La limite, quoi.
C'est ça, un peu.
Sur quel critère? Quel est le critère pertinent? Quelle est la valeur de quel critère qu'il faut limiter pour en arriver à se dire que là il y a une femme et là il y a un homme? En fait, c'est juste impossible de répondre à cette question.
Ouais, là il faut expliquer que du coup au niveau de l'athlétisme, je sais pas quelle fédération, je pense que c'est la fédération d'athlétisme en entier, non, qui pose le critère que pour être une femme, il faut que tu aies le taux de testostérone qui soit
inférieur
à tant, inférieur à tel niveau, quoi.
Ouais.
Okay. Si tu veux concourir dans la catégorie femme.
Ok, mais du coup, il faut fixer un niveau. Et du coup, les femmes, disons, on va fixer un niveau, on va dire inférieur à tel niveau, le niveau étant la valeur X, on va dire. Celles qui sont à X, qui sont largement inférieures à X, est-ce qu'il faut les augmenter pour qu'elles aillent à X, du coup? Parce que du coup, sinon c'est injuste.
Ouais, mais voilà, mais le problème c'est quoi? Alors, c'est que c'est aussi faire la différence entre ce qui est. Donc, déjà, un, mettre un critère, comment on fait? Deux, est-ce qu'on considère que notre taux de testostérone ou quoi, ou qu'est-ce, quoi, c'est un don, c'est un atout, c'est pas faire par rapport aux autres, c'est. Enfin. C'est hyper compliqué tout ça, quoi.
Ouais, c'est sûr que c'est pas faire par rapport aux autres, parce qu'être un homme, c'est pas faire par rapport à être une femme.
Ouais. Et t'as des mecs qui ont peut-être un taux de testostérone bas, et ça veut, ils vont dire, ben, c'est pour ça que j'arrive
on
pas
voudrait l'augmenter,
à battre
quoi.
L'autre pour gars être, qui... Voilà, on veut l'augmenter parce que lui, il l'a plus haut. Mais ouais, mais lui, il l'a plus haut parce que c'est naturellement chez lui, c'est comme ça. Et il a des attributs différents. Et puis,
il y a des nageurs qui ont des bras plus courts que d'autres. Il y a une forme il y a des différences, une forme d'inéquité, je ne sais pas si on peut le dire. Des différences, en tout cas, entre les concurrents. C'est pas grave, ça.
C'est compliqué
mais c'est pas non plus grave. Je veux dire, on va pas définir que pour... participer au championnat de basket, on doit mesurer 2 mètres.
Ouais.
Voilà, 2 mètres. Et on va pas non plus.
Il y a pas ce genre.
Et on va pas non plus organiser des compétitions d'athlétisme déjà entre hyper androgènes. C'est le truc un peu quoi, le truc vraiment glauque quoi. Tu vois, comme si on en faisait vraiment des gens à part, alors que...
Si on faisait une catégorie
voilà,
à part.
Part quoi, alors que je répète, ces ménias se considèrent comme femmes. Et on va pas non plus faire des catégories, je sais pas moi, d'athlètes de 1m90 pesant 79 kilos.
Si on n'arrive pas.
C'est fait ça dans certains
alors,
sports.
Avec tant de testostérone, comme ça, là, c'est tout à fait faire pour tout le monde.
Dans la boxe, ils ont décidé que c'était discriminant, donc ils l'ont fait. Ça.
À la boxe, ils l'ont fait, mais si tu as une allonge qui est, et il y a des grandes différences parfois. Là, on le voit avec le combat, par exemple, de Joshua contre Ruiz, là, je crois. Tu vois, il y a une tête de différence entre les deux. Joshua a une allonge, un bras qui est presque deux fois plus grand que l'autre, mais il se fait allonger quand même, quoi. Et c'est comme ça, je veux dire. Alors oui, tu vas avoir un avantage parce que tu as une allonge meilleure que ton adversaire.
Ouais, mais là, du coup, tu vois, donc là, t'acceptes la catégorisation, mais on l'accepte pas sur le côté que en athlétisme, on va dire que ben pour être dans la catégorie femme, il faut avoir tant de taux de testostérone.
Et ouais, parce que tu peux moins jouer facilement dessus que ton poids quand t'es un boxeur. Disons que le poids, c'est facile de le modifier. C'est facile d'optimiser son poids pour rentrer dans sa catégorie en étant au plus près du poids et en ayant le plus de masse efficace possible. Mais toucher à son taux de testo, influer sur son taux de testo, je pense pas que ce soit si facile, entre gros guillemets, que contrôler son poids.
Ouais. Mais quoique, dans la fédération, justement, d'athlétisme... veut, enfin, ou je sais pas ce qu'ils disent là, Caster Semenya veut être dans la catégorie femme, il faut qu'elle prenne un traitement médical pour faire descendre son taux de testostérone.
Voilà.
C'est pas ironique que ça, quand
sachant
même.
Que naturellement, il me semble que ton taux de testostérone peut avoir des variations quand même importantes, tu vois, d'un moment à un autre.
Ah ouais, bah ça, je sais pas.
Ouais, puis juste une question. Alors là, du coup, c'est une question ouverte parce que j'en sais vraiment rien. Est-ce que le fait d'avoir un taux de testostérone à un instant T, ça annule le fait que tu aies eu de la testo plus que tout le monde pendant toutes les années précédentes de ta vie? Donc, Ou est-ce que ça fait juste rien, en fait? Parce que la testo à un instant T pendant l'effort, en fait, ça t'aide pas forcément plus que ça, mais c'est plus le fait que t'aies construit une musculature ou une condition physique grâce à cette testo dans le passé qui conditionne mm-hmm. l'athlète que t'es aujourd'hui, tu vois. Parce qu'un athlète, par
ouais,
exemple, parlons du bodybuilding, par exemple, les athlètes qui se sont dopés,
ouais, je connais bien.
Qui ont atteint une condition physique, ouais, je sais, David, c'est pour ça, hein, tu me corriges hein, si je me trompe. T'atteins une condition physique à l'aide de testo de synthèse, des anabolisants et compagnie, enfin le dopage ouais. qui permet de construire une masse musculaire qui va au-delà de ce que la nature pourrait nous permettre d'avoir. Donc ces gens-là le font, ils deviennent ultra badass, c'est su de tout le monde, en particulier dans ce domaine, tout le monde sait que ces gens-là, pour atteindre des physiques tels que les Mister Olympia, ils sont forcément au-delà du naturel, même la science, elle le reconnaît easy. Le jour où ouais. il arrête de se doper, il est pas, il maigrit pas comme une, pour autant.
Bah oui.
Il garde le capital. Pourtant, il a pu la testo. Il a pu la, le niveau de testo qu'il a pu avoir quand il avait une cure, par exemple.
Mais il garde sa musculature, c'est ça que tu veux dire?
Ouais, bah il continue de s'entraîner.
Parce qu'en fait, ça l'a
capital,
aidé à la construire.
Ouais, c'est ça.
Il bénéficie ouais. De ses antécédents en termes de dopage. Bah, ça me paraît être ouais. évident.
Alors, ce que tu voudrais dire, du coup, Emir, c'est que, pour revenir sur l'athlétisme, c'est que est-ce que c'est pas un peu stupide de demander de faire descendre son taux de testostérone, parce qu'en fait, à la base, elle en avait plus, elle a une musculature différente et ça ne change rien qu'elle ait son taux pour telle compétition à tel jour
alors,
dans la catégorie
que je dis,
femme. Quoi.
Mais comme j'en sais rien, ça se trouve, c'est stupide ce que je
ouais,
dis.
Ouais, non, je sais pas. Donc.
C'est juste que j'aimais la réflexion parce que je me dis, baisser. Je suis pas certain de ce que je sais aujourd'hui, mais je suis loin d'être un expert, que avoir de la testo plus ou moins le jour d'une compète, ça t'aide à être meilleur ou pas.
Ça changera quelque chose.
Tu vois,
ouais,
je. Ouais.
Ouais,
ça,
ouais, je sais pas non plus, mais c'est une bonne question. Ouais. Ouais. Parce que dans ces cas-là, ce serait vraiment. Ouais,
dans ces cas-là, ce serait con, mais du coup, on peut supposer qu'ils sont pas cons et qu'ils. Voilà. Et que c'est ouais. moi qui n'y connais rien qui émet une réflexion con, tu vois. On peut très bien le supposer. Il y aura
bah
pas
après,
de.
Après, peut-être. Peut-être que c'est des contrôles de taux de testostérone sur la saison, tu vois, par exemple, ou j'en sais rien. Un truc,
oui, tout à fait, ouais.
Je ne sais
des
pas.
Moyennes qui... Ouais.
Et bon, et l'autre question que ça pose aussi, c'est que finalement, donc on ne sait pas si c'est bien de trouver des critères pour catégoriser les femmes, les hommes, et alors la question se pose, est-ce qu'on serait prêt à avoir des compétitions mixtes, finalement?
Ah ben moi je trouverais ça, je trouve que on devrait ouvrir le débat en fait. Tu vois, je vois chez les jeunes par exemple au football, les filles sont autorisées à jouer avec les garçons jusqu'à 14 ans je crois, U14 on appelle ça.
Ah ouais, ouais. Genre dans les
compétitions de jeunes. Ouais.
Okay.
Bah, les filles sont bien et puis bah je pense que 14 ans on a décidé que c'était la l'âge moyen pour la puberté,
voilà.
etc.
On a décidé comment ouais. En faisant des généralisations. Voilà. Et les gens comme Caster, Semenya, c'est quoi bah, c'est une exception.
Ouais, c'est ça.
Du coup, voilà.
Et voilà, et on sait pas où
voilà.
la mettre.
Bravo, voilà, c'est ça. Donc on en revient même. À chaque fois, t'es obligé de faire une règle générale qui prend pas compte les spécificités. Et un jour, il y a une spécificité qui arrive et tu dis, oh putain, on fait quoi maintenant?
Mais dans l'absolu, si tu as une joueuse de foot qui est très forte, et qui vaut largement, par exemple, un joueur de première division française, pas les meilleurs, mais quand même qui aurait sa place. Bah, pourquoi on n'imaginerait pas qu'un jour ce sport deviendrait mixte? Enfin,
ouais.
Moi, ça me choquerait pas. Je trouve que le débat il serait sain.
Oui, ce serait bien. Mais par contre, sur certains sports, il y a quand même. Des différences qui feraient qu'une femme ne pourrait jamais gagner, tu vois. Et ce serait... Alors, voilà, est-ce qu'on l'accepte, est-ce qu'on l'accepte pas?
Oui, ben, on sait que, par exemple, Semenya, si elle concourt avec les hommes, elle a aucune chance. J'en vois, hein, avec mes mômes, des filles qui jouent au foot et qui vivent pas forcément toujours bien le fait de devoir changer de catégorie ou qu'on leur dit gentiment... Peut-être qu'à un moment donné, ce serait bien de passer avec les filles, quoi, parce que ben, si vous êtes mieux entre vous. Il y a une pression sociale quand même aussi autour de ça.
Et c'est ouais. Ce serait pas un peu du sexisme, ça aussi?
Pour moi, c'est assez clair. Hein. Tu vois, qui n'a jamais entendu l'assertion « une femme athlétique musclée, c'est pas beau, on dirait un homme », quoi, tu vois. Je parlais de football juste avant, mais il y a le cas, par exemple, de... Je l'avais noté, hein, de Lily Parr. Lily Parr, c'est une grande footballeuse professionnelle dans les années 1910-1920, quoi. Lily Parr, en fait, c'était une très bonne joueuse de foot, et avec son équipe, elle tapait des équipes de mecs, quoi. Et le foot a plus une bonne image. Et la fédération anglaise, ce qu'elle a décidé, en fait, elle a juste décidé d'interdire le foot féminin. Et ça a duré comme ça de 1921 à 1971, quoi. Enfin, je veux dire, on connaît aussi le cas de Catherine Switzer à Boston en 67. Tu vois, on a tous, cette image en tête.
Ouais. Comme quoi, les femmes pouvaient pas courir un marathon. Bah ouais. Quoi. Ouais.
Et en fait, donc des exemples comme ça, et j'imagine qu'il y en a énormément. Mais c'est vrai, et puis tu parlais de, elles ne peuvent pas. Ouais, on craignait. C'est comme les femmes qui faisaient du vélo, quoi. On craignait pour leur fertilité, hein. On craignait pour le risque qu'elles se masculinisent, quoi, qu'elles endommagent leur utérus, enfin, bon, voilà. Et bon, après, il y a un demi-siècle à peine, on a créé des tests de féminité. Et c'était quoi, en fait? Ben, tu montres tes organes pour les faire expertiser, quoi. Tu vois, c'est avec des tests de morphologie, quoi, qui correspondent au canon de la féminité. Tu vois, c'est, voilà, canon de la féminité. C'est quoi le canon de la féminité? Je pose la question, en fait. C'est pas trop de muscles, c'est une poitrine quand même, une taille, tu vois, voilà, c'est... Moi, j'y vois un profond sexisme quand même, parce que dans l'histoire du sport, il y a quand même une volonté de maîtriser, de contrôler le corps de la femme. De sauvegarder un rapport d'infériorité, en fait, qui est chiffré, je veux dire, qui est normé, quoi. Et quelque part, on cherche à maintenir les femmes dans un niveau de performance qui est inférieur, quoi, à ce que les hommes. J'entendais il y a quelques jours, aujourd'hui même, quoi, des gens ont suggéré que au football on réduise la taille des cages, en fait, pour les femmes. Voilà. Enfin, les femmes, bon, elles tombent des nues, quoi. Elles disent non, mais nous on veut pratiquer.
Pourquoi? Parce qu'on est passé.
Tu vois, pourquoi? Elles disent on veut pratiquer le sport, ce sport comme il est, universel, quoi. Enfin. Et puis. Voilà, quoi. Donc on l'a dit, hein, l'homme il a des muscles développés, des gros jambons de gladiateur, quoi, et la femme elle doit avoir sa petite foulée de princesse, hein, qui elle flotte sur des volutes célestes, voilà. Quand tu vois, enfin voilà. Et un cas qu'on n'a pas cité, et je sais pas si vous vous souvenez, Amélie Mauresmo, la joueuse de tennis.
Ouais, c'est vrai.
Et chez les Guignols, en fait, si je ne fais pas d'erreur, chez les Guignols. Les Guignols de l'info sur Canal+, c'était Stallone avec des longs cheveux, quoi. Vous vous souvenez pas?
En parlant de Amélie Mauresmo, on peut parler de Serena Williams aussi.
Tout à fait.
Et Venus Williams.
Ouais,
tout à fait. Avec des problématiques de racisme aussi parfois. Donc voilà. Il y a quand même une question qui se pose. C'est, il faut l'admettre. Hein. Moi, la première fois que j'ai vu Caster Semenya à la télé, forcément, ça m'a fait tilter. Ben, forcément, quoi. Donc, il se pose quand même la question de l'éducation, en fait, et de la visibilité.
Oui, tu t'es demandé si c'était une femme ou un homme.
J'ai bien compris qu'elle était une femme.
Parce qu'elle a quand même des traits.
Ouais, traits assez masculins, c'est évident. Une carrure. Ouais, clairement. Une carrure, c'est évident. Donc, c'est compréhensible que, de façon primaire, encore une fois, épidermique, on se dise c'est différent, quoi. Mais ça pose cette question de l'éducation et de la visibilité accordée à ces personnes qui existent. Hein. Et pour que, ben, justement, notre regard s'habitue et ne tombe pas dans des écueils de type sexiste ou discriminant. Quoi.
Exactement. Ouais. Emir, tu veux rajouter quelque chose ou on finit là-dessus, parce que c'était très bien aussi, mais...
Non, ça me va, tu finiras là-dessus. Inhale with your arms over the head. Exhale when your arms come down. Now make sure to keep those knees bent and the buttocks tucked under. Exhale for our neck rolls. One. Now we keep that same posture. And the purpose of this exercise is to stretch the neck and the head. And reverse. One, two, one.